Bah, c'est pas moi qui gère ça en fait. Je peux pas gérer ça, moi.
C'est en live.
Ah, c'est bon, let's go. Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Central. Désolé, j'avais pas vu qu'on était en live. Bah, aujourd'hui, je suis avec Dryas Dryas. Je suis avec Basto et Eric en bas.
J'ai un peu
Et
plus de cheveux.
on a plein de sujets à aborder. Donc j'espère que le live se passera bien et que vous n'avez pas trop attendu. Alors du coup, on démarre directement les hostilités par les rumeurs Mercato. On va commencer par la rumeur qui est apparue cette semaine et ensuite on parlera de la deuxième rumeur qui est apparue. Que pensez-vous de Rayan Cherki au Paris Saint-Germain?
Vas-y, je t'en prie.
Qu'est-ce que je pense de Rayan Cherki au Paris Saint-Germain? J'ai dû me frotter les yeux plusieurs fois hier pour vérifier que c'était bien vrai. Donc c'est sorti dans l'équipe, puis après c'est sorti sur RMC, puis après dans Parisien. Donc on a commencé à se dire c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. Puis après, on a ensuite vu qu'en plus, on le prenait peut-être pour être titulaire dans un 4-4-2 à plat. Donc là, on se frotte la tête, on se dit, c'est réel? Qu'est-ce qui se passe? Non, Cherki, il est bien gentil. Cherki, c'est 80 matchs pro à 19 ans. C'est bien, c'est un talent, mais c'est un joueur qui a beaucoup de défauts, qui ne comprend pas forcément qui ne comprend pas forcément bien le jeu. Je comprends pas. Je comprends pas ce mood. On n'a pas beaucoup d'argent. Alors, on nous a dit aussi qu'on allongeait le budget pour pouvoir faire Cherki. Pour moi, autant ne rien faire, autant faire monter un Garbi jeune si c'est pour la rotation. Et si c'est pour être titulaire. Non mais hey, je ne veux pas Garbi titulaire. Hein. Je ne suis pas un fan absolu des Titi comme certains. Mais si c'est pour mettre Cherki en rotation, autant garder nos jeunes. Et si c'est pour mettre Cherki titulaire, je ne comprends pas. Donc je suis un peu effaré, un peu déboussolé de cette rumeur. Mais bon, pourquoi pas, on verra. On jugera sur pièce si bien.
Ricoba, t'en penses quoi de la rumeur?
Ouais, je suis assez d'accord avec Basto. C'est un super joueur, hein. C'est un crack, sûrement le plus gros de sa génération. Mais après, il y en a beaucoup qui se basent uniquement là-dessus. Et on a un exemple qui est Ben Arfa, qui était le plus gros crack de 87. Et au final, ça a été le plus gros, la plus grosse déception, on va dire. Il n'a pas fait la carrière qui lui était promise. Donc, ça ne veut rien dire. Il est jeune, ça fait quand même, il est précoce. Ça fait 3 ans qu'il joue au haut niveau. Il a démarré à 16 piges. Donc c'est bien, mais pour l'instant, il a encore énormément de défauts, il a énormément de points où il doit progresser. Et pour moi, c'est des points en fait qui sont clés pour arriver dans un club et réussir dans un club comme le PSG. Donc c'est ça le problème, et c'est pour ça que personnellement, malgré tout le talent qu'il a, j'en veux pas. Et surtout pour le court terme, comme il l'a dit Basto, on parle pour l'installer dans un 4-4-2 à droite, alors que c'est un joueur qui ne défend pas forcément. Et du coup, ouais, non, je ne suis pas fan. Pour moi, il faut qu'il continue à grandir à Lyon, déjà qu'il s'impose à Lyon, qu'il fasse une ou deux grosses saisons complètes à Lyon avec des belles stats, qu'il progresse aussi dans son jeu et dans son QI football, tout ce qui est hors balle au pied, on va dire, son placement, faire les bons choix au bon moment, etc. Et après, on verra pour un step supérieur, mais pour moi, mettre une quicheta sur lui, augmenter le budget pour lui, je ne comprends pas.
Et puis juste rajouter quelque chose, Cherki ne s'est jamais imposé à Lyon, il commence à s'imposer avec Laurent Blanc, mais en numéro 10. Mais en numéro 10. C'est quoi le projet? Je ne comprends pas.
Bah, moi, en fait, je suis plus ou moins d'accord avec vous. Après, l'idée de base de Campos, je la trouve quand même intéressante. Parce que souvent, on se plaint qu'on ne va pas chercher les talents de Ligue 1, qu'on attende qu'ils pètent ailleurs pour commencer à s'intéresser à eux. Et là, pour une fois, on l'essaye de le faire avant que le gars pète ailleurs. Et certains ne sont pas contents. Même après, moi, je reste complètement d'accord avec votre avis. Moi, je vais vous donner mon avis sur Rayan Cherki. Je pense que Rayan Cherki, c'est un joueur qui a énormément de talent. Alors, je n'irai pas jusqu'où a dit Ricoba, c'est-à-dire le meilleur talent de sa génération. Je pense que dans sa génération, il y a vraiment de diamants bruts et que Cherki est un cran en dessous de ces mecs-là. Par contre, le talent, il l'a. Le potentiel, il l'a. Moi, je ne suis pas en train de dire un avis définitif sur le joueur. Peut-être que dans quelques années, il me fera mentir ou autre. Mais quand je vois ce que Cherki fait à Lyon, malheureusement, j'ai du mal à me dire que ce mec-là ne sera pas un talent gâché. Pourquoi? Parce qu'offensivement, il est très intéressant. En sortie de banc, hyper intéressant. Je pense qu'au Paris Saint-Germain, je pense que c'est ça l'idée première. C'est d'avoir un mec en sortie de banc qui est créatif, qui va pouvoir prendre les côtés, avoir une certaine pointe de vitesse ou autre. Mais globalement, l'idée de base, c'est ça. C'est d'avoir un mec qui va pouvoir avoir une sortie de banc, etc. L'idée est bonne. Aller chercher un talent de Ligue 1. Mais Cherki, moi, ce qui me dérange avec lui, c'est que il est très bon offensivement. Il va savoir faire les différences balles au pied, mais lorsqu'il va perdre le ballon, la rigueur tactique, il ne l'a pas. Et ça, pour moi, c'est une chose qui ne trompe pas. Lorsque tu perds le ballon et que tu ne fais pas l'effort de te replacer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, grosso modo, même mentalité que Mbappé lorsqu'il était plus jeune. Attention, Mbappé a pu corriger ça. Hein. Mais ça veut dire, en gros, moi, je suis l'attaquant, je mets des buts et vous, derrière, vous faites le sale boulot, c'est pas mon problème. Moi, la défense, ça ne me regarde pas. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que quand tu es un très grand joueur, tu t'appelles Lionel Messi à Barcelone, tu t'appelles CR7, etc., tu fais pas les tâches défensives, malheureusement, ça peut être dérangeant. Mais globalement, on ne pourra rien dire d'autre. Voilà, c'est comme ça. Moi, je suis un buteur, c'est moi qui fais le truc. Mais toi, tu n'es pas encore arrivé à ce step-là. Et que tu commences déjà à avoir cette mentalité-là, c'est dérangeant. Ensuite, il y a un autre son de cloche. Mais bon, moi, après ça, je ne prends pas ça en compte. Mais c'est vrai qu'il y a eu des clashs avec Boateng. Il y a eu des clashs avec ses coachs. Les coachs, ils ont globalement le même avis sur lui. Très talentueux, mais la rigueur tactique, c'est pas très. Voilà, c'est vrai qu'à Paris, on en a eu des joueurs comme ça. Et bien souvent, bah, ils ont bifurqué dans le mauvais chemin. Même si, je le répète, le talent, le joueur, il l'a. Le potentiel, le joueur, il l'a. Et que s'il vient à Paris, je ne tirerai pas forcément la gueule. C'est une plus-value, enfin, c'est une plus-value dans ton équipe. Mais voilà, j'ai du mal à le voir pour un projet d'avenir. Vas-y, Basto.
Ouais, et puis en fait, j'ai l'impression que rien n'est cohérent. On nous tanne tout l'été. Campos est venu râler à RMC parce qu'on n'avait pas fait de pivot, pas de décès. Puis finalement, on change de plan. On prend un ailier maintenant droit qui peut se recentrer. Donc déjà, tu as changé de plan. Il faut nous expliquer pourquoi. Et ensuite, Cherki, tu l'as dit, hein, sa rigueur tactique sans ballon, mais même avec ballon, c'est pas forcément le bon choix au bon moment. Il a toutes les qualités techniques, mais il n'a pas forcément encore ce qu'on appelle l'intelligence de jeu et qui pour moi est primordiale. Alors c'est très bien, on nous a dit, comme tu as dit, de prendre des talents Ligue 1. Mais regarde, on n'est pas un club qui déjà fait progresser ses talents. On voit avec Ekitike, on lui demande de changer son jeu, pour le moment ça ne marche pas. On a pris Renato, ça marche pas. Donc moi, j'ai jamais été fan de prendre des talents Ligue 1, à part si vraiment tu sais que c'est un talent brut. Par exemple, si on avait pu prendre un Bernardo Silva avant qu'il parte à City, à Monaco, parce que lui, il avait déjà tout. Ok, mais prendre encore un pari alors qu'on sait qu'on a une marge de manœuvre limitée par le fair play financier, qu'on va peut-être mettre 15-20 millions, peut-être les perdre, et que cet été, du coup, on pourra pas prendre un cadre au milieu parce qu'on n'aura plus ces 20 millions, donc on pourra prendre un autre pari au milieu, etc., etc., on s'en sort plus. Il faut prendre, maintenant, il faut soit mettre, prendre un cadre, soit garder notre argent et faire confiance à ce qu'on a dans le groupe, chez nos jeunes.
Mais là où l'idée est bonne, après je donne la parole à Ricoba, là où l'idée est bonne, c'est qu'en soi, on peut dire ce qu'on veut. Hein. On peut parler de la qualité de Cherki, on peut parler de sa mentalité, on peut parler de ses trucs. Mais quand tu regardes notre banc, et ce n'est pas pour dire que les joueurs sont mauvais, loin de là, mais tous les joueurs qu'on a ramenés, et même les joueurs qu'on avait déjà, bah moi j'ai du mal à voir ces joueurs-là comme des dynamiteurs, des mecs qui peuvent aller courir après un score. J'ai l'impression que ces mecs-là, ils sont plus dans la conservation de balles, et que lorsque tu fais des changements, et c'est aussi ça pour ça que je répétais la dernière fois que Galtier a les fesses entre deux chaises pour être poli. Bah malheureusement, on se plaint qu'il fait des changements très tardifs, et c'est une réalité, mais tu te dis que s'il fait sortir ces mecs-là qui sont ses créateurs, etc., et qui vont apporter ces touches de folie dans le jeu du Paris Saint-Germain pour aller courir après un score, bah sur le banc, tu n'as que des mecs de conservation. Ce n'est pas des mecs qui vont pouvoir aller courir après un score. Je prends l'exemple du Bayern. Malheureusement, si tu es mené 2-1 contre le Bayern au match retour et que le match aller, tu as fait 0-0, bah globalement, tu n'as aucun joueur sur le banc qui va pouvoir apporter ces petites fraîcheurs, ces petites touches de folie qui va peut-être réveiller l'équipe autour. Et Cherki, il a le profil pour. Alors, je ne pense pas que ce soit le joueur type qu'il nous faudrait, mais en tout cas le profil est très intéressant et le profil correspond à un besoin au Paris Saint-Germain, le besoin de se faire un banc. Et dernière chose, la dernière fois j'étais en space, ils ont comparé Hugo Ekitike et Cherki. Hugo Ekitike et Cherki, c'est deux choses différentes qu'on va leur demander.
Bien sûr.
Hugo Ekitike, on va lui demander d'être un finisseur, alors que Ryan Cherki, on va lui demander d'apporter le ballon pour tes finisseurs. Ce qui fait que ça va être deux profils différents. Du coup, Ricoba,
ton micro, plus. Micro coupé.
Ah ouais, c'est pardon. Oui, non, du coup, le problème, il est là, en fait, c'est qu'on n'a pas de finisseur. Donc, du coup, ben, on apporte un profil qui peut être intéressant en sortie de banc, je suis d'accord, un mec qui peut dynamiter et changer le cours d'un match. Maintenant, est-ce qu'il a la mentalité pour s'asseoir sur le banc et accepter de jouer 10-15 minutes? Parce que la MNM, elle ne bouge pas, hein. Elle sort, même s'il y a besoin de changer le cours d'un match, elle ne bouge pas. Donc, faut que à la limite, tu sors un milieu défensif ou un défenseur pour faire rentrer Cherki. Donc, tu crées un déséquilibre énorme. Lui, il ne va même pas défendre non plus. Donc, finalement, même si tu cours après le score, au final, tu vas te retrouver à te prendre deux ou trois buts même derrière. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne solution. Et puis surtout, ben, justement, tu l'as dit, apporter aux finisseurs, on est en train de changer justement le jeu d'Hugo Ekitike qui du coup ne progresse pas forcément puisque on a besoin d'un numéro 9. Et moi, pour moi, quand tu vois les besoins que tu as derrière et devant, c'est pas le profil de Cherki que tu as besoin d'aller recruter, surtout quand tu es en délicatesse au niveau de ton budget et que tu dois savoir bien les investir. Pour moi, les investir sur Cherki à ce moment-là, c'est pas forcément la meilleure pioche. Et puis surtout, Comme disait Basto, il y a eu une nouvelle politique qui est arrivée cet été. Campos, c'est un dirigeant qui veut, qui était censé nous ramener des joueurs qui ont la mentalité pour s'imposer, qui ont des mentalités de guerrier, des mentalités de professionnel. Et Cherki, c'est tout l'inverse. Voilà, c'est un joueur qui, même si voilà, il c'est pas celui qui va te créer non plus la zizanie tout le temps, mais je veux dire, c'est un joueur qui est pas forcément, qui a pas le plus gros mental, qui a pas la meilleure mentalité, qui est pas le plus gros travailleur, qui se repose sur ses acquis, sur son talent. Et pour moi, c'est pas du coup le profil adéquat pour un club comme le PSG.
Après, comme j'ai dit, je pense que Cherki aussi, c'est une sortie de banc. Juste tout à l'heure, j'ai vu un commentaire qui disait on a Neymar, Messi, Solaire, qui sont censés être des créateurs. C'est pas
Ouais,
la même type, c'est pas le même type de création que tu vas demander à Cherki. Ce que tu vas demander à Cherki, c'est surtout ce grain de folie qu'il va amener lorsqu'il va rentrer sur le terrain. Après,
c'est
oui,
un
je suis d'accord.
créateur dynamiteur. Il a ce
Voilà.
côté train à aller chercher à
Voilà.
accélérer le jeu.
Et ça tombe bien que Ricoba ait parlé d'attaquant. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur Cherki, Basto?
Non, je pense qu'on
Ricoba?
a fait le tour.
Je pense qu'on a fait le tour. Après, moi, dernière chose, hein, je répète, c'est pas forcément une mauvaise idée. C'est un pari sur l'avenir, Cherki. Il peut être
Oui,
très
bien
bon, comme
sûr. En plus,
il peut très vite changer.
Barry, justement,
Mais
ce qui me fait peur, c'est le pari sur l'avenir. On ne refait que la déco depuis des années. On ne fait pas les fondations. Et si tu mets de l'argent de nouveau dans le papier peint et que tu n'as plus l'argent pour faire les fondations cet été, eh ben, tu auras les mêmes problèmes.
suis d'accord, je
C'est
suis
vrai, c'est une
globalement
belle
d'accord avec
image.
toi. Bah, du coup, c'est intéressant que Ricoba nous ait emboîté le pas en parlant de l'attaquant pivot, parce que c'est vrai qu'on a des... Enfin, l'attaquant pivot, l'attaquant tout court, hein, un attaquant de surface, que ce soit pivot ou non. On a plusieurs problématiques au Paris Saint-Germain. J'ai vu un commentaire sur une autre problématique qu'on reviendra à la fin de à la fin du bilan mercato. Mais on a la problématique de l'attaquant et on a aussi celle de l'ailier. Un ailier dynamiteur qui va pouvoir prendre la profondeur ou autre. Et aujourd'hui, on a eu une info de Foot Mercato, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qui nous parlait de Malcolm. Malcolm, qui est le joueur qui est passé par Bordeaux, qui a fini à Barcelone, alors qu'il était pressenti à la Roma, et aujourd'hui qui se trouve au Zénith Saint-Pétersbourg. Alors, il a fait 1511 minutes avec le Zénith Saint-Pétersbourg. Que pensez-vous de la piste de Malcolm? Bonne ou mauvaise idée?
Vas-y, Rico, commence cette fois-ci.
Bah, pour moi, c'est la même chose. Ça va être une sorte de pari encore parce que il était sur une pente ascendante. Il a été transféré au Barça. Il n'a pas réussi à s'imposer. Alors, ça arrive, mais pour moi, ça en dit long. Quand un joueur il n'arrive pas forcément à s'imposer dans un grand club, bah, ça te donne quand même une indication. Au final, il arrive à bien marcher avec le Zénith, mais il lui a fallu du temps aussi. Là, je crois que c'est sa première grosse saison vraiment où il marque plus de 10 buts, où il explose vraiment. Après, on a l'impression qu'on entend parler de Malcolm depuis longtemps, mais en vrai, il a que 25 ans. Mais voilà, pour moi, il doit encore prouver, pas forcément au Zénith déjà, il doit aller dans un club intermédiaire, je pense. Et après, tu peux penser à le recruter au PSG, mais encore une fois, ce sera une question de pari. Et je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'il nous faut, en fait. Et moi, pour finir par rapport à Cherki et Malcolm, bah, il y a l'image de Casemiro qui marche énormément bien à Manchester. Et là où je compte ce que disait Basto par rapport au papier peint, bah, on a mis 40 millions sur Vitinha, sur Ekitike, sur Soler, sur Ruiz. Et au final, c'est que des paris, alors que finalement, il va aller mieux prendre un mur porteur comme Casemiro. Et donc, pour moi, Cherki et Malcolm, c'est la même chose, quoi.
Basto.
Malcolm, c'est un joueur que j'appréciais beaucoup quand il était à Bordeaux. Il s'est un peu perdu effectivement avec ce choix qui était surtout dicté par l'agent. Il allait signer à Rome et au dernier moment, il s'envole à Barcelone qui fait une suroffre. C'était au moment où Barça recrute un peu tout et n'importe quoi. Ils mettent 150 sur Coutinho, etc. Donc c'était aussi difficile pour Malcolm d'un coup de se retrouver là parachuté avec le prix d'un transfert pour lui qui ne correspondait pas à sa valeur et un peu un mercato des folies de n'importe quoi de Barcelone. Donc il ne soit pas imposé à Barcelone, soit. Après, c'est vrai qu'au Zénith, il a mis du temps. Puis là, le Zénith n'a pas joué depuis 2-3 mois, je crois, en plus, donc va te remettre en rythme. Alors qu'on en a besoin maintenant. Si on recrute un joueur, autant attendre cet été, hein, si c'est pour remettre un joueur en forme sur 2-3 mois qu'il n'a pas joué depuis plusieurs semaines. Ouais, Malcolm, c'est un joueur que j'apprécie plutôt, mais c'est pareil, quoi. C'est pas dont on a besoin. Et une autre chose que je comprends pas, c'est que si on croit la presse, alors la presse n'a pas forcément raison, mais si on croit la presse, c'est que Campos voulait Cherki, n'avait pas forcément de plan B. Et c'est l'agent de Malcolm qui appelle Campos et qui là se dit, ah, ça peut être une bonne idée. Mais Campos, ça c'est quoi? Normalement, c'est celui qui a le plus grand réseau du monde. Et là, il n'a pas de plan B pour Cherki. Il faut que ce soit un agent qui l'appelle pour placer Malcolm et qui dise, ah, ça peut être une bonne idée pour un plan B. Il y a un truc qui tourne pas rond dans cette affaire et dans ce club.
Et ben aussi bizarre que ça puisse paraître, aussi bizarre que ça puisse paraître, je pense pas que ce soit une mauvaise idée. Non pas parce que le joueur est très fort, mais je répète encore cette nécessité d'avoir un banc. Et malheureusement, quand tu veux te construire un banc, quand tu es le Paris Saint-Germain et que tu n'es pas le Real Madrid,
Que ça du bon.
que tu n'as pas... Que tu... Malheureusement, c'est très compliqué d'aller trouver des joueurs qui peuvent être sur ton banc, accepter le banc et lorsqu'ils vont rentrer, apporter un profil dont tu as besoin. Malheureusement, au Paris Saint-Germain, tu peux attirer les titulaires. Le banc, globalement, c'est très compliqué de l'avoir.
C'est quoi Ruiz, Solaire, Ekitike, c'est quoi Renato, c'est
C'est
quoi?
pas les... ce que je viens de dire, Basto. Ce n'est pas les mêmes profils. Ce
D'accord,
n'est
mais
pas
c'est
les
des
mêmes
joueurs de banc qui acceptent d'être sur
profils.
banc et de censés apporter, qui apportent pas forcément. Donc,
Malcolm, là où il va être intéressant, attention, hein, je répète encore un truc. Je ne dis pas que le joueur est incroyable, mais là où il va être intéressant, c'est qu'il est assez rapide et que bah il va pouvoir apporter quelque chose sur le côté. Il prend la profondeur ou autre. Après, moi, je vous dis la vérité, Malcolm, je l'ai plus regardé depuis qu'il a quitté
Bordeaux,
Barcelone. J'ai dû
le
regarder
Barça.
Barcelone. J'ai dû regarder deux matchs de lui au Zénith, mais vraiment deux matchs. Hein. Tu sais, c'est les matchs que je regarde quand il n'y a rien à regarder, tu vois. Je suis pas un fanat du Zénith. Globalement, aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il vaut. Et
Après.
malheureusement, là, par exemple, je regardais notre ami Datascoot de Twitter qui a fait une data. Et il avait pris en relation avec Mohamed Salah qui vient d'être mis. Et ils ont pratiquement les mêmes stats. Ouais, mais sauf que Mohamed Salah, il joue en PL, frère. Il joue en PL. Lui, il joue au Zénith.
Barry, il y a un autre problème avec Malcolm, c'est que tu dis que c'est un joueur de banc, mais Malcolm, que ce soit en retour de blessure ou parce qu'il n'était pas titulaire ou parce que il arrive dans un nouveau club, il lui faut enchaîner à chaque fois les minutes pour être performant. Il faut qu'il enchaîne, il faut qu'il soit titulaire 5, 10, 15 matchs de suite pour pouvoir donner sa pleine mesure. Je ne pense pas que ce soit un joueur qui arrive à être à 100% en sortie de banc, justement. Et ça m'inquiète aussi.
Mais moi je pense que le but c'est juste d'avoir là je pense que là actuellement pour l'équipe titulaire malheureusement il n'y a pas beaucoup d'oseille pour aller chercher des trucs donc ils se sont dit quoi? Ils se sont dit bah écoute ce qu'on va faire on va aller chercher des petits coups pour le banc et ces mecs-là vont apporter quelque chose qu'on le veuille ou non un mec comme Rodrigo je prends l'exemple de Rodrigo à Madrid je peux te dire que Malcolm a le même niveau que Rodrigo hein. Aujourd'hui Rodrigo est meilleur mais un mec comme Rodrigo bah, tu regardes la saison dernière il avait ce rôle ingrat le rôle de tu rentres de par ta fraîcheur, de par ta vitesse,
Oui,
de par ton
encadré.
envie de jeune, tu apportes quelque chose. Et un mec comme Malcolm, qu'on le veuille ou non, c'est un profil dont tu auras besoin à Paris Saint-Germain. Alors, c'est peut-être pas le bon joueur. Moi, je reste juste sur le profil. C'est une bonne idée sur le profil.
Après,
Le joueur, je ne sais pas
après,
son éventuellement.
après ça parle de la recrue qui arriverait, qui serait peut-être titulaire à droite dans un 4-4-2, encore une fois. Hein, donc,
Ouais, c'est ça aussi,
est-ce que
ouais.
c'est vraiment un joueur de banc ou un titulaire qu'on veut, ça, on est un peu perdu, on ne sait pas.
Moi, ce n'est pas des profils qui peuvent jouer à droite dans un 4-4-2. Et puis, justement, en parler du banc, oui, c'est bien, mais pour moi, il faut améliorer l'équipe titulaire. Et quand tu peux prendre un Skriniar à 15-20 millions, il vaut mieux le prendre lui plutôt que de prendre un joueur de banc. Tu en as déjà sur le banc. Certes, ce n'est pas les meilleurs qui rentrent, mais est-ce que Malcolm ou Cherki, quand ils vont rentrer, vont être capables de faire ce boulot-là et d'être meilleurs que ceux qui rentrent aujourd'hui? Je ne sais pas, sûrement, mais ça reste une hypothèse.
Pas meilleur mais apporter quelque chose de différent parce que je le répète comme je l'ai dit tout à l'heure lorsque les mecs rentrent tu prends l'exemple de Soler Ruiz ou peut-être Renato mais Renato il était blessé donc en vrai on n'a pas vu plus que ça tu vois mais je prends l'exemple de Carlos Soler Ruiz Vitinha à moindre mesure mais ces mecs-là lorsqu'ils rentrent bah, ils sont très bons dans la conservation du ballon c'est pas des mecs où ils vont dynamiter le jeu
Mais
de
c'est pas
par
des
leur vitesse
dynamiteurs. Bah, tu regardes
et
Ramos,
Soler
c'est
dans
mieux
la
quand il
dans
rentre.
la finition et les second ballon Soler apporte autre chose
Oui,
hein,
voilà, il est bon dans la finition, mais tu vois. Ce que je veux dire, c'est si tu as un corps, si tu dois chercher, tu dois courir après le score. Et à Paris, on l'a eu,
Oui,
c'est
non,
Ramos
bien
qu'on a.
sûr, bien sûr. Mais.
Mais malheureusement, ce n'est pas les mecs qu'il te faut. C'est peut-être pas les mecs qu'il te faut. C'est des mecs, tu sais, Solaire, il met des buts, mais il met des buts en attaque placée. Ce n'est pas le mec qui va arriver de par ses
Non, ça
qualités,
c'est sûr. Ça c'est bien.
créer le décalage qui va permettre le but. Et Malcolm, qu'on le veuille ou non, c'est peut-être pas le meilleur joueur au monde, hein, mais il a ce profil-là. Excuse-moi, Rico, pas
Écoute, on
t'interrompre.
verra bien.
T'as un profil comme Garbi qui peut dynamiter un peu le jeu quand il rentre et il rentre jamais. Donc, tu vois. Après, Malcolm Cherki, c'est plus aguerri, mais bon. T'as ce que tu as à la maison, tu peux essayer de le développer, voir ce que ça peut donner. Les rentrées qu'il a pu donner, c'était plutôt intéressant. C'est un profil différent. Si tu as besoin de dynamiter, tu peux faire rentrer Garbi. Je trouve que c'est dommage de ne pas le développer, tu vois.
Mais le développement, ça ne veut pas dire forcément que tu oublies l'aspect du football. Aujourd'hui, on va parler français. Hein. Tu as vu, moi, je l'ai vu, la hype sur les réseaux, etc. Garbi, je l'aime beaucoup. C'est un très bon joueur. Et moi, j'adore le jeune joueur et j'espère qu'il va percer. Mais aujourd'hui, Malcolm et Cherki sont meilleurs que lui.
C'est sûr.
C'est une réalité. À un moment, les gars, il ne faut pas faire du titi pour faire du titi. Oui, on veut que les titi soient développés. Mais si on a la possibilité d'avoir meilleur, eh, on va pas non plus se dire, ouais, mais Cherki peut le faire. Non, Malcolm pourrait le faire. Et mieux que lui, bah, on va prendre Malcolm. Cherki pourrait le faire. Et mieux que lui, on va prendre Cherki.
Par contre, il ne faut pas faire la connerie de bloquer Garbi. Et si tu peux le prêter, tu le prêtes dans ces cas-là. Parce que nous, on a toujours ce problème de rien, on prend et on les laisse dans le club, on refuse les prêts, mais ils ne jouent pas. Comment tu veux qu'il se développe derrière, c'est trop tard.
La problématique du banc, il y a la Ligue 1, mais il y a aussi la Ligue des Champions. Et malheureusement, qu'on le veuille ou non, comme Garbi, avec tout le talent qu'il a, malheureusement, c'est encore un peu tendre pour la Ligue des Champions.
Et c'est vrai, oui, c'est vrai que le calendrier va être monstrueux. Tu as besoin de dynamiteurs qui te ramènent du 109, etc. C'est vrai. Maintenant, moi, pour moi, j'aurais préféré améliorer l'équipe titulaire avec Skriniar notamment. Parce que oui, l'équipe titulaire, c'est compliqué, c'est cher et tout. Mais quand tu as un profil comme lui, pour moi, il vaut mieux, sachant que tu n'as pas beaucoup d'argent, il vaut mieux tabler sur lui. Après, tu as raison sur le fait qu'il faut un mec sur le banc qui puisse t'apporter des garanties en sortie de banc. Ça peut être intéressant à Malcolm ou à Cherki, on verra bien. Mais si on met un 30 ou 40 millions, franchement…
Après, c'est plus 15-20, hein, ce qu'on entend sur Cherki.
Il n'a pas l'air d'être d'accord avec 15-20.
À l'arrivée, on aura peut-être des deux. Hein.
Ola, s'il fait sa propagande de Cherki est un gamin du club. Oui,
Ola avait fait exactement le même tweet un mois avant que Goury se barre à Nice.
Vous avez remarqué qu'il fait ça très souvent lorsqu'on parle du Paris Saint-Germain. Hein. Lorsque c'est le Paris Saint-Germain, Ola, il retrouve sa 5G. Hein. Il est très fort, ce mec-là. Du coup, quelque chose à rajouter encore sur Malcolm ?
C'est bon.
Ok, on va faire la dernière piste en rapide parce qu'en vrai… On en a discuté et rediscuté et encore discuté. Skriniar qui est annoncé partant de l'Inter Milan. Alors apparemment, le Paris Saint-Germain aurait fait une offre de 10 millions, refusée par l'Inter car Zhang voudrait 20 millions pour laisser partir son joyau. Qu'en pensez-vous ?
Ouais, je pense que ça va se faire à 15, tout simplement. Après, Paris a plus intérêt à le faire cet hiver pour moi, parce que je crois que Skriniar demande une prime de 25 millions. Donc au final, vaut mieux payer 15 à l'Inter plutôt que de lui en payer 25 à lui.
Et puis en plus, ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas une petite prime non plus à la signature aujourd'hui, mais qui sera beaucoup moindre évidemment.
Ouais, c'est ça. Et puis autant t'en servir dès maintenant, parce que pour moi on en a besoin, on ne peut pas s'en passer. Donc autant le signer maintenant. Maintenant, c'est un jeu de dupe un peu, mais je pense que l'Inter va accepter au bout d'un moment une quinzaine de millions. Et je pense qu'il viendra dans les dernières heures du mercato.
Ouais, enfin, j'espère. C'est un peu ce qui se passe. C'est un peu un jeu de poker menteur. Maintenant, clairement, l'Inter veut le vendre maintenant. C'est un point à peu près de non-retour par rapport aux déclarations de l'agent de Skriniar dernièrement. Skriniar veut le PSG veut Skriniar. On essaye de le faire au bas prix en proposant 10 millions, évidemment, ils sont à 20. On va tirer vers le bas et ça se fera sûrement et c'est très bien. Comme Ricoba a tout dit, de toute façon, le prix, que ce soit cet été ou cet hiver, avec les primes à la signature, seront les mêmes. Donc autant le prendre maintenant parce qu'on en a besoin au vu des faiblesses de notre charnière et de la blessure de Kimpembe qui n'est toujours pas revenue.
Ouais, puis ça t'apporte des garanties aussi dans les deux systèmes.
Donc et puis du leadership, on en a besoin aussi. Donc de l'expérience, etc. Là tu as un vrai titulaire, quoi, comme on en parlait tout à l'heure. Là,
je suis complètement d'accord avec vous, mais malheureusement, je vais apporter de la contradiction. C'est débile, hein, c'est bête ce que je dis, parce que vous savez que moi je.
T'aimes bien contredire. Hein. On aurait dit l'inverse, t'aurais contredit aussi.
Non, j'aime bien contredire. Mais pour le coup, j'ai une vraie analyse derrière. Et c'est vrai que ça peut être. Comment je vais le dire, ça peut être perçu de manière un peu bête, mais c'est une réalité. Bah, en fait, Skriniar, c'est un joueur dont tu auras besoin. Parce que c'est vrai que les problèmes en défense, on le voit depuis le début de la saison. Après, est-ce que c'est la priorité à l'instant T ? Je vous dis la vérité pour l'hiver. Hein. Moi, je vais vous dire que non. Et non pas parce que pour vous dire que les joueurs qui sont en poste sont incroyables. Hein. Loin de là. Mais malheureusement, la ligne défensive, elle est faite pour la saison. Même si elle ne donne pas assez de garanties, elle est faite pour la saison. Et tu te rends compte que les manques, tu as d'autres manques à certains trucs qui vont te poser des problèmes et il faut aller les chercher. Je prends l'exemple du profil de l'ailier. Bah, malheureusement, qu'on le veuille ou non. Hein. Mais si on court derrière le score, que ce soit contre le Bayern, même si j'ai pas envie qu'on parle que du Bayern, parce qu'il y a un calendrier qui est réel et on a Lens à 3 points. Mais juste le simple fait que tu dois courir derrière le score et avec les joueurs que tu as sur ton banc, malheureusement, je vous dis la vérité, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est d'avoir un profil qu'on n'a pas. Et les deux profils qu'on n'a pas, c'est l'attaquant et c'est l'ailier. Et malheureusement, je pense que Skriniar, même si la défense nous fait peur, et c'est une réalité, hein, c'est une réalité, la défense nous fait très peur. Malheureusement, je pense qu'il vaudrait mieux aller chercher sur un profil qu'on n'a pas et qui va pouvoir nous débloquer certaines situations.
Oui, tu veux ton profil qui peut débloquer quand on est mené, mais on est mené parce qu'on est une charnière défensive dégueulasse.
Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Parce que le problème, c'est pas uniquement la charnière. Franchement, le problème, c'est pas uniquement la charnière.
Bien sûr que c'est pas que la charnière, je trollais un peu, mais de toute façon, il y a des problèmes, il y en a partout. Il nous manque un pivot, un ailier, un 6 de zone, un DC. Enfin, c'est un chantier colossal encore.
Tu vois ce que je veux dire, je veux bien qu'on parle de la défense, etc. C'est réel, la défense, elle fait peur. Mais quand tu te prends une attaque placée de Benfica, alors vous êtes en bloc bas, et qu'en deux passes, Benfica arrive à se retrouver devant ta charnière, les mecs, ils ne sont pas aidés. C'est-à-dire qu'en bloc bas, les mecs doivent défendre en deux contre un. Mais c'est un truc de fou. Hein. Tu parles à n'importe quel entraîneur, que ce soit en R1 ou en entraîneur de Ligue 1, il dirait, mais c'est pas possible. C'est un truc de malade. Et malheureusement, la défense, elle n'est pas forcément aidée. Elle n'est pas
forcément aidée qu'on le voyait, non. Mais justement, le lié que tu veux recruter, il ne va rien changer à ça en soi. Et moi, où...
Il va changer offensivement pour lui.
Voilà, mais pas défensivement. Et pour moi, justement, tu te disais par rapport au... Si on regarde juste les noms, sans la condition physique, sans les performances, oui, on a ce qu'il faut. Mais en vrai, Mukiele, là, il est blessé. C'était le meilleur défensivement. Danilo, il est là. Kimpembe, il est blessé. Marquinhos, le niveau, bon, ça remonte. Ça, il gagne plus de duels et tout. Mais ce n'est pas encore ça. Et Ramos, clairement, tu t'es cuit. Donc, au final, bah, tu as Danilo de près et de bon. Tu as Marquinhos de près et voilà, un peu, voilà. Et sinon, tu n'as que des blessés. Donc, pour moi, il le faut, Skriniar. Et en plus, ça te permet de passer à 3 derrière ou de jouer à 4.
Moi, je vous dis, oui, il le faut, Skriniar. Mais là, pour le moment, la priorité, pour moi, hein, c'est d'aller chercher un profil que tu n'as pas offensivement. Parce que voilà, moi, je vous dis la vérité, le banc, il est hyper important, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1.
Tu préfères améliorer le banc que le 11, pour le moment.
Je te dis la vérité, à l'instant T, oui, je préfère améliorer le banc. Tu sais pourquoi? Parce que le 11, c'est des automatismes qui vont être demandés. Et malheureusement, Skriniar, lorsqu'il va arriver, il n'aura pas les automatismes.
Le 11 actuel, il n'a pas beaucoup d'automatisme. En tout cas, ça ne se voit pas trop sur le terrain.
Avec Hakimi longtemps.
Et puis même sur le cas, Marquinhos, je suis d'accord avec vous. Depuis le début de la saison, il fait peur, mais il n'est pas aidé. Le mec, lorsqu'il est en défense à 3 et qu'il est libéraux, il s'empêche de sortir. Alors qu'on lui demande dans le poste de libéraux, il s'empêche de sortir parce qu'il doit constamment corriger les bêtises de Ramos derrière. Tu vois, derrière. Et si vous regardez bien l'orientation du corps de Marquinhos lorsqu'il était libéraux, il était constamment orienté de trois quarts vers Ramos, même quand le jeu n'était pas dans son sens.
Mais déjà Marquinhos et Ramos sur leur bon axe de côté, il inverse depuis le début de saison, Galtier.
Donc ça, je suis d'accord avec vous. Mais malheureusement, pour moi, le profil de l'ailier, il est hyper important. Et je vous le dis, en Ligue des Champions, malheureusement, si tu cours vers derrière le score ou autre, malheureusement, si tu continues avec ce banc-là, bah, les mecs qui vont rentrer, ils vont rien
apporter. Je suis d'accord avec toi, mais on en revient tout à l'heure. Si Cher qui rentre, il fait trois dribbles, il fait pas le bon choix parce qu'il doit faire la passe, il perd le ballon, t'as une contre-attaque, t'auras l'air fin avec ton banc.
Ah ouais. Mais le truc avec Cherki, c'est je pense qu'ils veulent que même de par ses qualités techniques, ils viennent et ils réveillent tous les autres autour peut-être.
Et ils fassent reculer un peu la défense, etc. Oui, je peux comprendre.
C'est ça. Tu vas laisser plus d'espace à Kylian Mbappé, se dire que ouais, Kylian Mbappé est un peu plus fatigué, donc on va maximiser nos ressources défensives sur un Cherki et sur un ballon Kylian Mbappé, bah, il est violent.
Campos, il aime bien la data, comme moi qui suis statisticien, donc il a dû faire ses calculs et tout, mais là, c'est son calcul, je sais pas comment il l'a optimisé, mais il est pas très bon.
Bah, Cherki,
le bénéfice risque, à mon avis, il pend plus vers le risque que le bénéfice. Hein.
C'est vrai, mais si tu regardes les stats de Cherki en sortie de banc, c'est l'un des meilleurs de Ligue 1, malheureusement. Il a des stats qui sont très bonnes en sortie de banc, même si je suis pas trop fan des stats. Donc bref, les gars, vous avez quelque chose à ajouter
sur Skriniar? Non.
Skriniar, ouais, sur les recrues, etc.
Non, je pense qu'on peut passer au dossier suivant.
Depuis un moment, donc,
on passe au dossier suivant. Alors le dossier suivant, de toute façon, je pense qu'on va le faire en rapide. Hein. C'est le calendrier de fou du Paris Saint-Germain, vraiment le calendrier de la mort. Alors, je vous fais le topo. Hein. La saison, elle se joue sur un mois. Clairement, que ce soit en Ligue 1, que ce soit en Coupe de France ou en Ligue des Champions, tout se joue en un mois. Écoutez bien le calendrier de fou qu'on a. Le 7 février, on a OM-PSG au Vélodrome.
En Coupe de France.
Donc si tu perds, tu sors de coupe. En plus, tu perds contre Madrid. Je suis un malade. Contre ces clowns de Marseille. Et en plus, chez eux, en sachant que tu n'as pas perdu chez eux depuis 10 piges. Donc tu vois, il y a plein de trucs qui chutent. Ça, c'est la première. La deuxième, Tu as Monaco PSG, chez eux, au camp des loges. Parce que Monaco, ce n'est pas le public le plus chaud. Mais même, tu vois, Monaco est une équipe qui te pose des problèmes encore en début de saison et qui t'a toujours posé des problèmes en Ligue 1 globalement depuis l'arrivée de QSI. Donc, Monaco PSG. Ensuite, derrière Monaco PSG, tu as PSG Bayern, le choc de Ligue des Champions. En sachant que Monaco PSG, si tu le perds, tu as Lens à 3 points. J'ai oublié de le dire en Ligue 1. PSG Bayern, qui est le choc de Ligue des Champions, le choc clairement de la journée de Ligue des Champions, hein, du 8e, c'est PSG Bayern. Tu as PSG Lille derrière. PSG Lille qui t'a sucré le titre il y a 2 ans, si je ne dis pas de bêtises.
Et
Et
puis
puis quand même.
Lille, juste rajouter un point, Lille n'est que 7e de Ligue 1, mais Lille a 2 points par match. On a une Ligue 1 qui est incroyable cette saison, avec 7 équipes qui ont plus de 2 points par match. Lille est invaincu, je crois, depuis 11 ou 12 matchs, avec un jeu huilé. Attention.
Très
Ce ne
bon.
sera pas le 7-1 de l'année, hein. Ce sera pas le 7-1 de l'année, ça c'est sûr.
Et même quand tu leur as mis 7-1, tu as vu déjà que Lille, il leur manquait
Ouais.
l'un des forces au milieu de terrain dont j'ai oublié le nom. Cabella, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Il leur manquait Cabella.
Tu voyais déjà, entre notre premier but
Et
qu'on
tu les
marque très
voyais très
tôt,
bons.
ouais, entre
Tu
le
les voyais
1-0 qu'on
très
marque dès
très
la
bons.
6e seconde et le 2-0 qui arrive à la 30e, on se fait balloter pendant 30 minutes. C'est vrai que c'était un peu trompe-l'œil ce match, on en avait parlé.
PSG Lille. Ensuite, PSG Lille, bah, tu as un deuxième classico, mais cette fois-ci en Ligue 1. OM PSG, le 26 février. OM PSG, qui est aussi un choc de Ligue 1, c'est le classico. Ensuite, tu as PSG Nantes. Nantes, qui est aussi une bonne équipe de Ligue 1 globalement, mais ce n'est peut-être pas l'équipe qui fait le plus peur. Et enfin, dernière, tu as PSG Bayern. Bayern PSG, pardon, car là, tu es à l'extérieur. Le 8 mars. 8 mars, 8 mars, on reconnaît, hein, le 14 mars et le 8 mars en général. Fais pas bon ménage avec le Paris Saint-Germain. Donc Basto est parti. Rico, bah, qu'en penses-tu?
Bah, ça va être. Alors en fait, le calendrier, ouais, c'est un calendrier de la mort. Et pour moi, justement, du coup, là, les 3 matchs qui vont arriver contre Reims, Montpellier et Toulouse, pour moi, ils vont être très importants. Parce que déjà, c'est là où tu vas commencer à roder ton collectif vraiment, tes idées de jeu, etc., à te mettre en place. Et justement, à prendre 9 points. Pour moi, ça va être hyper important de prendre 9 points. Parce que justement, en prenant ces 9 points, tu peux espérer que Lens ou Marseille fassent un faux pas. Et s'ils font un faux pas dans ces 3 matchs-là, bah, au moins, tu peux avoir un petit matelas en Ligue 1, notamment avec les matchs qui arrivent contre Monaco et Marseille. Après, il va y avoir ce match en Coupe de France contre Marseille. Pour moi, tu dois le jouer à 200% parce que voilà, on peut tomber dans une gestion et se dire, bon, peut-être on lâche la Coupe de France, peut-être, voilà. Non, pour moi, il faut mettre les titulaires et jouer cette coupe à fond et profiter de ce match au milieu entre Marseille et le Bayern contre Monaco pour essayer de faire tourner un minimum. Parce que bah, ça, en fait, on va jouer tous les 3-4 jours. Donc il va falloir forcément faire tourner un petit peu, gérer les minutes, les temps de jeu. Donc je pense que s'il y a un match où on doit faire tourner un petit peu, ce serait le match entre l'OM et le Bayern, donc ce match de Ligue 1 contre Lille. Et c'est là où juste contre Monaco, pardon. Et c'est pour ça que justement, il faut impérativement gagner les 3 matchs là qui arrivent contre des plus petites équipes pour pouvoir avoir peut-être un matelas un peu plus conséquent au moment d'affronter Monaco, au cas où ben, tu fais un match nul. Mais en tout cas, si tu bats Marseille, si tu fais nul contre Monaco et si tu fais un bon match contre le Bayern, tu auras quand même bien négocié ce premier virage. Et après, il restera la Ligue 1 contre Marseille et le retour contre le Bayern.
Et bah ouais, je suis plus ou moins d'accord avec toi. Après, là, ce qui va être très intéressant quand tu as des matchs tous les 3 jours, déjà, c'est la récup. Malheureusement, donc il n'y aura pas d'avancée tactique ou technique au niveau des entraînements. Malheureusement, ça sera essentiellement des entraînements de récupération. Mais globalement, ça passe ou ça casse. Là, c'est vraiment à chaque fois, on se plaint d'arriver de pas avoir d'arriver en Ligue des Champions et de ne pas avoir de forte opposition avant d'arriver en Ligue des Champions. Là, tu ne peux pas faire plus. Malheureusement, tu es en Ligue 1. Donc clairement, tu affrontes tous les gros de Ligue 1. Tu affrontes le gros de la Ligue des Champions parce que le Bayern est un des gros de la Ligue des Champions et un sérieux concurrent à la victoire finale. Et donc ça passe, ça casse. Malheureusement, si tu perds bon nombre de ces matchs-là, bah, la suite de la saison elle va être très compliquée parce que malheureusement, tu vas aussi les problèmes mentaux que ça va découler. Et si tu en sors vainqueur, bah, tu en sortiras grandi de cette confrontation. Donc pour moi, c'est pas plus mal. Pour moi, c'est vraiment un
Bien
calendrier
sûr.
qui va faire du bien au Paris Saint-Germain. Et plus clairement, c'est simple, hein. Si ça passe, bah, le coach Galtier sera renforcé et il y a beaucoup de gens qui vont devoir se taire et arrêter de parler pour rien dire. Et si ça casse, bah, ces mecs-là, ils auront raison. Ils auront raison de se dire, bah, dès qu'on tombe contre des gros, la tactique de Galtier a beaucoup de mal. Donc non, moi, je trouve que ça va être bénéfique pour le Paris Saint-Germain. Clairement, on va ressortir grandi.
Ouais, bah ouais, ça va être des gros tests. Malheureusement, quand on regarde les gros tests qu'on a eus en Ligue 1là, ces derniers temps, sur les 2 dernières années, on n'a pas fait de super belles performances, on n'a pas obtenu tous les points qu'il fallait. Donc il y a de quoi quand même s'interroger. Maintenant, on va voir, hein, les tests arrivent, on aura les réponses à nos questions. Le temps de jeu, la gestion sur les minutes, elles vont être importantes. Et c'est là où justement, toi, tu parlais du banc tout à l'heure, c'est pour ça que j'étais à moitié d'accord quand même. Bah, les remplaçants vont devoir vraiment se mettre au niveau parce qu'on va avoir besoin en fait d'eux. Et c'est, j'en parlais dans le Actu Ligue 1 qu'on faisait, mais c'est la différence que je trouve avec Lens et Marseille, c'est que eux, bah, ils ont pas mal de joueurs qui marquent, tu vois, des Frankowski, des Fofana. Il n'y a pas que les attaquants, il y a Kolasinac, il y a Ender, enfin tout Vertu, Rongier. Et eux, ils ont pas mal de joueurs qui viennent marquer en fait et qui bah, soulagent les attaquants. Et ça, mine de rien, c'est hyper important. Et malheureusement, au PSG, que ce soit nos remplaçants ou nos titulaires, bah, à part ces joueurs-là, à part la MNM, pardon, bah, personne ne marque, personne n'apporte ça. Et ça, c'est ça peut nous porter préjudice.
D'où la nécessité de ce que je disais avant, avoir un
Ouais, c'est
banc.
pour ça que je fais
Avoir
ça.
un banc, c'est hyper important. C'est pour ça que moi, je vous dis que Skriniar, malgré la priorité qu'il représente, malheureusement, pour moi, ce n'est pas la priorité absolue. Et même, tu sais, en vrai, ce n'est pas forcément un mec qui marque, mais c'est un mec qui, à partir de la 70e minute, peut apporter le ballon à ceux qui savent marquer, à ceux qui finissent les actions. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce n'était pas forcément la priorité. Mais globalement, oui et non, parce que on l'a entendu, Galtier l'a dit qu'il voulait que ses milieux commencent à tirer beaucoup plus en dehors de la surface de réparation. Tu as Fabien Ruiz qui sait le faire, tu as Vitinha qui sait le
Ils ont
faire.
tous les qualités pour le faire, c'est ça le pire.
Et dernière chose, ouais, voilà, et tu as Renato qui sait le faire, etc. Mais quand tu regardes un Carlos Soler, malheureusement, Carlos Soler, même si moi, vous savez mon inamour que j'ai pour ce joueur-là, pas mon inamour parce qu'en vrai, il vient d'arriver, donc je suis mesuré quand même. Mais c'est vrai que je ne vois pas grand-chose, il marque.
Stat.
Carlos, il marque, il stat.
Ouais.
Ça soulage les attaquants. Fabien Ruiz, je pense que dans quelques temps, il va commencer à stater et marquer. Ça va soulager les attaquants. Vitinha, dans les derniers matchs, je trouve qu'il se projette beaucoup plus dans la surface de réparation. Donc j'espère que ça va commencer à marquer. Et Kitike aussi, qui commence à stater de plus en plus. Donc oui, il y a cette part de soulager les attaquants. Malheureusement, c'est encore trop tendre. Mais ça commence à se faire. Du coup, juste Baston, on voulait ton avis sur le calendrier de malade mental. T'en pensais quoi, toi? Est-ce que c'était une bonne chose ou une mauvaise chose?
Je sais pas si c'est une bonne chose. On nous dit souvent que jouer des matchs d'intensité, on m'entend ou pas?
Ouais.
Ouais, que jouer des matchs avec haute intensité avant la Ligue des Champions, c'est très bien, etc., etc. Mais on a vu que c'était pas toujours le cas. Je pense à une défaite contre Lyon avant un match contre City sous Laurent Blanc. On a vu autrement aussi qu'on nous disait que jouer des matchs qui n'ont pas d'intensité, c'est problématique. À l'arrivée, je pense qu'il n'y a pas de règle absolue là-dessus. Barry nous disait que c'est là où tout va jouer. Alors non, c'est le mois où tu peux tout perdre, mais c'est pas encore le mois où tu as tout gagné. Donc on ne peut que perdre sur ce mois-ci.
Oui, c'est vrai.
Non, tonton, le Chili n'avait pas cramé, t'inquiète pas, j'ai juste été éjecté de la salle. Donc voilà, en plus on va plus pouvoir beaucoup tourner dans ces matchs-là. Je pense que maintenant il y a un 11 qui se dégage. Le problème, c'est qu'on ne sait pas dans quel système on joue, puisqu'on est en train de changer de système à peu près chaque 2 matchs en ce moment. Et qu'on est tous un peu perdus. Donc il va falloir trouver des certitudes. Il va falloir les trouver dès les 2 prochains matchs qui sont contre Reims et Montpellier. Même si c'est des petits matchs, je pense qu'on n'a plus le temps de tergiverser, de faire jouer le banc. Là, pour le coup, on est obligé d'aller mettre la compo qu'on mettra contre Marseille, contre Monaco, contre Munich.
Et qu'est-ce que tu penses justement par rapport à Galtier qui a changé là, de système? Qu'est-ce que tu penses du 4-4-2 avec un Renato qui l'a déjà fait à Lille ou un Hakimi par exemple un peu plus haut?
Bah, Hakimi Puyol, Mukiele est blessé, il sera sûrement pas là, au
Il va
moins pour le
revenir
match
bientôt,
aller.
non?
Donc c'est de quoi?
Il va revenir bientôt, non?
Bah, je suis pas sûr. Je crois qu'on s'annonçait 3 semaines à 1 mois de blessure, non?
Ah ouais, je pensais pas que ça allait être autant.
Mukiele, je crois qu'il sera de retour au match retour apparemment.
Ouais,
Donc
c'est
oui,
ça, c'est ça. On a
ouf.
la
Et
certitude de parler.
Renato, vous savez très bien ce que j'en pense globalement, et c'est pas
Renato,
son
c'est
dernier match
compliqué.
contre NR1 qui m'a rassuré.
Renato, c'est compliqué quand même, parce que Renato, autant moi, je suis tout l'inverse de Basto. Par contre, c'est vrai que son état physique, il laisse un peu à
Dommage.
réflexion, tu vois, pour Paris Saint-Germain. Et surtout Kimpembe, en fait, finalement, même s'il est retourné à l'entraînement, on ne sait pas quand il reviendra, en fait. On ne sait pas. Et en plus, Kimpembe, pour l'avoir déjà vu blessé, lorsqu'il revient, c'est pas le même Kimpembe, il faut du temps pour
Ouais.
revenir. Et c'est normal. C'est normal quand t'as une blessure. Donc forcément, ah,
Frédéric, non!
franchement, elle est mitigée un peu cette saison, mais je reste persuadé, mais vraiment, hein, je reste persuadé que le Paris Saint-Germain a les armes pour déjà gagner tous ses matchs durant un calendrier, au moins faire un ou deux matchs nuls peut-être, mais au moins gagner tous ces matchs, c'est normal, c'est le Paris Saint-Germain. Et je vous le dis, le Paris Saint-Germain a clairement des armes contre eux, le Bayern. Le Bayern, certes, est très fort, mais c'est pas le grand d'Europe que c'était.
Bah en tout Paris, cas, Bayern, tu connais l'arme. Vas-y.
Je disais juste, tu connais l'arme numéro 1, c'est moi. Moi, dès que je veux une grande implosion du club pour tout changer, le PSG se met à gagner des gros matchs. Donc, a priori, on va gagner tout le mois de février. Vous pourrez me remercier derrière.
Non, mais après, ça fait partie de la culture du PSG. Hein. On n'est jamais plus fort que quand on est jamais attendu, enfin pas attendu, à outsider, donc tant mieux. Mais pour parler du Bayern, ils sont pas dans les meilleures conditions possibles aussi. Ils ont pas mal de blessés, pas mal de petits soucis offensifs. Ils se procurent pas mal d'occasions, mais ils les mettent pas forcément au fond. Le départ de Lewandowski a fait du mal. Mané est blessé, même si Choupo-Moting arrive à quand même mettre quelques buts, mais c'est pas Lewandowski ou Mané. Donc voilà, il y a quand même des on les a pris à un moment où ils ont été très forts aussi avant, on les a éliminés. Là, ils arrivent, ils sont pas forcément mieux en points que nous. Ils ont galéré là au match dernier match, Kimmich a égalisé à la dernière minute. Donc voilà, faut pas croire non plus que le Bayern ça tourne super bien.
Et puis si je peux me permettre, la différence entre les matchs qu'on a en Liga et les matchs de Ligue des Champions, on l'a vu tout de suite hein, contre Benfica, on a déployé du jeu, même si on a fait match nul sur les deux matchs, on a déployé du jeu. Contre le Maccabi, je trouve qu'on a déployé du jeu aussi. Fort heureusement, c'est que lorsque le Paris Saint-Germain, tu te découvres, et c'est ce que va faire le Bayern, parce que le Bayern va vouloir venir jouer au Paris Saint-Germain, c'est une équipe dominante, donc elle va venir pour mettre en place ses idées de jeu. Et bien le Paris Saint-Germain, ils savent te punir pour ça. Donc le Paris Saint-Germain, je pense que le visage qu'on va montrer contre le Bayern sera pas le même qu'on a en Ligue 1. Alors après, je peux être optimiste, hein, mais je pense qu'on aura un autre visage du Paris Saint-Germain contre le Bayern.
Ouais, c'est possible.
Et puis, contrairement aux équipes de Ligue 1 qui ferment le jeu, le Bayern, ils vont venir pour jouer, les gars.
Non, ça va dans notre sens. Hein, une équipe qui joue, qui laisse des espaces, nous, on explose en contre, ça va dans notre sens. Après, il va falloir avoir cette solidité défensive qu'on avait eue contre le Bayern notamment. Et est-ce qu'on va l'avoir ? C'est surtout là la question, parce que leur faire mal en contre et réussir à planter des banderies,
on a un fan de Nuno dans le chat.
Mais un fan de Nuno ?
Moi, je vois pas le chat du coup. Bah, je voyais pas.
Il y a un gros Nuno.
Je peux pas faire monter les commentaires parce que je vois pas le chat du coup. Je suis désolé. D'accord avec toi. Oui, je suis d'accord avec toi. Et puis même, dans tous les cas, ça double tranchant, hein, parce que sinon, on peut leur faire mal en contre-attaque. Ils peuvent aussi nous faire mal en contre-attaque. Mais on aura le temps de parler du match contre le Bayern. J'aurai une analyse dessus, on aura tous une analyse dessus. On va parler un peu du sujet de Nyx. Galtier versus Klopp versus Conte. Alors, j'ai pas trop compris le sens du...
Vous parlez de Galtier tout court, non ?
Je pense que le sens, ça voulait dire, est-ce qu'on ferait partir Galtier pour Klopp, Klopp qui est en fin de contrat dans un an ou cette année, je crois, si je dis pas de bêtises. Et compter où le bateau commence à pas tanguer à Tottenham. Je pense plutôt que c'était ça l'idée. Est-ce que vous seriez prêt à sacrifier le soldat Galtier pour le général Klopp ou pour le président Conte ?
Bah moi, personnellement, je vois là les recrues à Liverpool. J'ai un peu du mal. On laisse du temps à cette nouvelle génération entre guillemets qui est mise en place. Je vois mal Klopp partir dès maintenant. Je pense qu'ils lui laisseront encore un ou deux ans, peut-être le prolonger une année de plus. Je ne le vois pas partir tout de suite, donc ça nous laisserait justement du temps pour Galtier, à qui personnellement, je laisserais du temps quand même à ce duo-là, au moins encore une saison de plus. Je ne suis pas sûr que changer, ce soit la meilleure solution.
Même si saison blanche fois.
Comment ?
Même si saison blanche sans titre ?
Ah, si saison blanche sans titre, non. Si on perd la Ligue 1 et tout, non, quand même pas. Mais je veux dire, si on se fait sortir face au Bayern en étant pas trop dégueu, et si on gagne la Ligue 1, une Ligue 1 quand même très très forte cette année… Bon, je pense qu'il mérite qu'on lui laisse quand même une année de plus, qu'il travaille un mercato de plus avec Campos.
Et les gars, je vais commencer la question. Je vais même me rapprocher de mon micro. La question est, Galtier est-il une erreur de casting, oui ou non ?
Non, pour moi, non. Parce que pour moi, tous les entraîneurs qu'on a pu prendre, ça n'a pas été des erreurs de casting. Simplement, on ne leur a pas laissé le temps. On ne leur a pas mis les joueurs qu'ils voulaient. On ne leur a pas laissé mettre ce qu'ils voulaient mettre en place. C'est surtout ça. Après, que tu réussisses ou pas, ça dépend de tellement de facteurs, mais pour moi, ce n'était pas forcément des erreurs de casting. Galtier non plus. Après, ce n'était pas la priorité, je pense. Hein. Je pense clairement qu'ils voulaient Zidane, ils ont eu Galtier au final. Mais bon, pour moi, maintenant, il est là, il faut le laisser travailler, il faut laisser du temps. Ce n'est pas en un an qu'on construit une équipe, surtout quand on voit Arteta avec Arsenal. On va le laisser bosser, ça a marché. Laissons-le bosser au moins un an de plus. Et puis surtout, Conte, pourquoi faire? Klopp, déjà, j'en ai parlé, mais Conte, pourquoi faire? C'est l'entraîneur qui se trouve à chaque fois en Ligue des Champions. Donc tu vas ramener un entraîneur qui se trouve tout le temps en Ligue des Champions avec toutes ses équipes, avec des beaux effectifs et des belles équipes, tu vas le ramener dans un club qui se trouve tout le temps en Ligue des Champions. Je vois pas la cohérence, personnellement.
Merci, merci Ricoba, merci, merci, merci pour ton analyse pointue parce que moi quand je le dis on me prend pour un fou. Mais bon, Basto, 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 erreur de casting ou selon toi il faut lui laisser du temps? Qu'en penses-tu?
Non, 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 il faut lui laisser le moins de temps possible. Je m'endors tous les soirs depuis sa signature. Je m'endors tous les soirs avec cette image de tout le bord parisien autour d'une table avec un contrat pour Galtier et il se dit c'est une bonne idée. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ce mec, alors, il a fait du bon boulot à Saint-Etienne, super. Il a gagné le titre à Lille. René Girard l'a gagné à Montpellier. On aurait pu recruter René Girard. Pourquoi pas? C'est le béaba du football basique à la française. Et pourquoi il veut revenir à un 4-4-2 à plat bien classique? Parce qu'il n'a plus d'idées, parce qu'il est perdu et que c'est le truc qui rassure tout le monde. Ce mec n'a aucune idée. Alors on disait meneur d'hommes, hein, oui, meneur d'hommes à Lille, etc. Effectivement, ça marche. Mais meneur d'hommes au PSG, je vais sortir Neymar et Messi. On l'a vu, il le sort à la 87e quand il y a 5-0. Mais sinon, il ne le fait
Il
plus.
a
Il est déjà
jamais dit
revenu sur ses
ça.
propos.
Il a jamais dit ça. Je vais
Oh
sortir
non,
Neymar et Messi,
jamais,
il a
jamais
jamais
dans l'interview
dit.
aux Parisiens en août. Bien sûr qu'il l'a dit.
Il l'a dit?
Ensuite, oui, il l'a dit. Ensuite, Galtier est très fort en communication, soi-disant. Alors, il avait pris des cours avec quelqu'un qui est dans la politique. Et oui, Galtier est un politicien. On le voit au début, il émerveille tout le monde. Et il fait copain-copain avec les journalistes. Les gens sont contents. Et puis, au bout de 3 mois, on remarque que c'est une arnaque et qu'il ment. Il ment tout le temps. Il ment tout le temps. Il a encore fait une erreur de com après la R1 là, avec son vice-capitaine Mbappé. J'ai pas voulu dire ça. J'ai parlé à Kimpembe. C'est ça tout le temps depuis le début de l'année. Au début, il nous avait dit, prochain match, je mettrai des joueurs frais. Il ne le faisait pas, il perd le banc, etc., etc. Et on voit quoi? On voit un jeu qui se délite, on voit un Galtier qui est perdu lui-même dans ses systèmes, qui dit, oh, j'ai eu l'idée la veille contre Angers de rechanger de système, même si je n'avais plus travaillé. Donc voilà, dehors pour deux raisons. Pour le PSG, et puis en plus, je propose à Galtier de venir être consultant Paris Central, Foot Central, parce que par contre, il analyse très bien les matchs. Il analyse très bien les matchs, mais il ne sait pas faire derrière pour pouvoir aller dans ce qu'il a pu analyser. Donc Galtier, si tu nous entends, on te recrute avec bienveillance.
Barry, c'est le dernier sujet ou pas?
Ouais, après, il y
De
a les
quoi?
questions-réponses, mais
Parce qu'il faut que j'y aille.
vas-y, t'inquiète, vas-y,
Bon.
t'inquiète. Va bosser les jambes, là. Vas-y,
Allez,
t'inquiète.
ciao, merci.
Vas-y, pense à toi. Écoute, moi, franchement, le cas Galtier, pour moi, c'est simple. En vrai, on l'a pris, on l'a pris. C'est bon. C'est bon, maintenant, même si c'est, je sais pas, c'est une erreur de casting, je ne pense pas que ce soit une erreur de casting, mais maintenant, il est là. Il faut le laisser travailler. Parce que si encore on se dit que le gars, non, on le vire après une saison, eh, je te dis la vérité, hein, tout ce qu'on nous a dit encore, ça nous prouve encore que c'est des bêtises. Et on aura encore toujours les mêmes galères, les mêmes galères, les mêmes galères, les mêmes galères. Maintenant, il est là. Peu importe, un projet sportif se met en place sur plusieurs années. Qu'on le
Projet
veuille
de
ou
quoi?
non. Non, mais qu'on le veuille ou non, un projet sportif, que tu le veuilles ou non, un projet sportif,
Projet Europa League?
même si le projet n'est pas sexy selon toi ou autre, où je peux être plus ou moins d'accord avec toi, parce que moi personnellement je trouve qu'on est très dur avec Galtier, je trouve que quand même, il faut quand même un peu doser, mais il y a des choses où je suis d'accord avec toi, Basto. Malheureusement, il est là. Ou fort heureusement, je ne sais pas. Il est là. Maintenant, le projet sportif, il faut le mettre en place sur plusieurs mois, sur plusieurs années. C'est pas sur plusieurs mois, pardon, c'est sur plusieurs années. Et malheureusement, si on le libère actuellement, bah pour moi. Voilà, en fait, on a aucune cohérence sur ce qu'on a dit au début de saison, on n'a aucune cohérence sur les profils que Campos a pu aller chercher et sur le fait que Campos a pu être mis en tant que directeur sportif. Pour moi, il est là, il est là.
Après,
Parce que tout n'est pas à jeter avec Galtier, malheureusement, qu'on le veuille ou non. Il y a des choses qui ont été très bonnes et d'autres qui ont été moins bonnes.
je suis d'accord sur deux points. Je suis d'accord sur un point. Après, tu dis, on n'a pas de cohérence. Mais Galtier et Campos n'en ont pas non plus par rapport aux interviews et ce qu'ils font derrière, où c'est un peu le contraire de ce qu'ils disent. Ça, aparté. Je suis d'accord quand tu dis tout rechanger, etc., etc. Il faut laisser plusieurs mois. Le problème, c'est que des mecs comme Klopp, qui est en difficulté au début à Liverpool ces premières années, comme Arteta à Arsenal, les résultats ne sont pas là, mais tu vois une évolution positive au fil des mois. Galtier, tu vois un jeu, un discours, une communication, tu as l'impression qu'il se perd au fil des semaines. Et le problème, il est là. Si tu voyais des axes d'amélioration, pas de souci, il n'y a pas les résultats, tu laisses. Mais là, tu vois ce que je veux dire?
Bah, oui et non, parce qu'en vrai, avant la Coupe du Monde, lorsqu'on a changé le système et qu'on est passé en système à 4, malheureusement, au début, c'était pas trop ça, mais on a vu des axes d'amélioration, qu'on le veuille ou non. On avait un Fabien Ruiz qui, durant la première partie de saison, a commencé à monter en puissance. On a vu une MNM, on a vu une MNM globalement qui, au début, était basée sur Neymar et Messi, et que lorsqu'on est passé en système à 4 derrière, ils ont commencé à monter en puissance. On avait un Vitinha qui, au début, était très bon, et lorsqu'on est passé en système à 4, il a eu beaucoup plus de difficultés, mais globalement, il était moins dégueu que ce qu'on a vu durant les matchs de début. Donc, on a vu des axes d'amélioration. Même à Hakimi que j'ai trouvé très intéressant sous Galtier par rapport à sous Pochettino. Donc, des axes d'amélioration, on en a vu. Et moi, depuis le retour de la Coupe du Monde, il est là le problème. C'est que moi, depuis le retour de la Coupe du Monde, je trouve que là, on régresse. Alors, il a tenté d'expliquer ça par le fait que c'est une saison un peu particulière. Comment dire ? En vue de la Coupe du Monde, etc. Je suis un peu d'accord avec lui. C'est vrai que là, ils ont eu des préceptes durant un mois et demi, mais je trouve que quand même, dose quand même Galtier, je trouve quand même que tu es tombé dans la facilité pour trouver une excuse.
Non, mais regarde, que, Barry,
c'est une part de t'as peut-être perdu ton groupe.
Barry, pas, mais j'ai l'impression. Barry, j'ai pas attendu la Coupe du Monde pour critiquer les dernières prestations du PSG. Le premier objectif, c'était de finir premier de groupe en 6 matchs de Ligue des Champions. Pour moi, on a 0 match référence. Contre la Juve à l'aller, qui était une Juve très faible à l'époque. Tu mènes 2-0, c'est très bien. Puis d'un coup, tu recules. Tu sais pas pourquoi. Au retour, c'est la même. Contre Maccabi Haïfa, contre Tel Aviv. C'est Tel Aviv qu'on joue ou Haïfa, je sais plus.
C'est Haïfa. De quoi comprendre.
C'est Haïfa. À l'aller, on se fait baloter pendant 40 minutes. Au Benfica, on a quelques temps fort, ouais. 20 minutes aller comme retour. Mais globalement, on est dominé. Contre Lens, contre Rennes. Galtier, tactiquement, dès qu'il joue un match en jeu, est dominé. Et dominé. Alors non, il y a eu, allez, peut-être Marseille au parc, où on a eu une bonne première mi-temps, c'était un peu plus compliqué, mais c'est très léger pour moi dans les gros matchs. Galtier semble perdu, et il le dit en conf, après en conf, il essaie de trouver XX excuses, X remarques qui sont parfois réelles ou pas, mais il donne l'impression d'un mec qui ne sait pas où le PSG va.
C'est vrai que, franchement, moi je suis un défenseur de Galtier, tu le sais. Mais c'est vrai que depuis le retour de la Coupe du Monde, franchement, c'est très poussif. Le jeu est... Là, on régresse. Sincèrement, on régresse. Alors, je sais qu'il y a beaucoup, d'aspects aussi. Par exemple, à Fabien Ruiz, il a la douleur de ne pas avoir joué à la Coupe du Monde. Un Carlos Soler, il a la douleur de l'avoir perdu. Un Neymar, il a la douleur de s'être fait éliminer de la sorte. Un Messi, il est très content sur un nuage parce qu'il l'a gagné. Un Kylian Mbappé, il a la rage de vaincre parce qu'il l'a... Et tu vois, tout ça, ça s'accumule. Et donc ça, je peux comprendre. Je peux comprendre que le coach d'Assis se dise. Ben, ils viennent de revenir globalement. Malheureusement, il faut les remotiver. Ouais, mais ça fait quand même 4-5 matchs là. C'est le moment de montrer que tu as de la poigne, ce pourquoi tu as recruté. C'est le moment. C'est pas demain, c'est pas dans 10 ans, c'est le moment. Et malheureusement, ben, depuis le début de la saison, on ne le voit pas. Depuis le début de la saison, depuis le retour de la Coupe du Monde, on ne le voit pas. Et c'est vrai que ça régresse. Il faut faire grave parce que, comme je l'ai dit, on a parlé, c'était le sujet juste avant. Le calendrier de la mort, il arrive.
Ah bah, le PSG joue sa saison, mais Galtier joue plus ou moins son avenir aussi, je pense.
Il joue son poste. Donc pour revenir au sujet où on parlait de Klopp versus Conte, etc. Moi, personnellement, à partir du moment où on l'a pris, il faut lui laisser le temps de travailler. Par contre, le laisser le temps de travailler, c'est très bien, mais il faut ramer aussi. Parce que je te dis la vérité, si on te laisse le temps de travailler pour que tu nous fasses deuxième de Ligue 1, éliminé contre le Bayern et même pas de Coupe de France, frérot, Galtier, pas Galtier, je sais pas qui, je sais pas quoi, Lille ou je sais pas quoi, on va te tomber dessus comme on t'a jamais tombé dessus et tu vas sauter, mon pote. Et tu vas sauter. Et c'est triste parce que moi, je crois encore que Galtier peut mener cet effectif. Peut-être pas la victoire finale parce que j'ai du mal à y croire, mais au moins éviter le ridicule en Ligue des Champions. Maintenant, faut récupérer ton vestiaire et faut remobiliser tes troupes.
Voilà. On va espérer. Hein.
T'as quelque chose à ajouter ?
Non, écoute, moi j'espère soit une saison fantastique avec un Galtier qui me fait mentir et où on fait un petit doublé par exemple national et où en Ligue des Champions on fait bonne figure, soit un cas contraire où on perd tout. Et on perd tout, la première saison blanche QSI avec peut-être la honte suprême, c'est-à-dire Marseille qui gagne le championnat. Pour voir ce que ferait le Qatar, est-ce qu'il continue à ne rien changer ? Et là, on sera fixé, c'est-à-dire qu'ils ne changeront jamais de plan. Ou alors là, s'il y a une saison blanche pour la première fois, ils changent de cap. C'est juste par curiosité, je préfère l'un ou l'autre plutôt qu'une saison mixte où on gagne le championnat à l'arrache, on sort en 8e contre Munich sans briller et on perd en coupe, tu vois. Donc pour moi, il faut un truc des deux extrêmes.
Écoute, ah, c'est bon, ouais. Écoute, je parlais avec Nick, désolé. Bah écoute, comme j'ai dit, hein, comme j'ai dit, voilà, la saison, elle va se jouer. Wow, j'ai bugué. La saison, elle va se jouer sur les grosses échéances. Maintenant, je pense que Galtier, il a l'équipe et il a les ressources pour le faire. S'il ne le fait pas, on va lui tomber dessus. On va lui tomber dessus. Et malheureusement, ça sera mérité. Là, pour le moment, je trouve quand même que c'est immérité quand même certaines critiques. Mais là, si tu perds le calendrier de la mort, non, ce sera mérité. Je ne sais pas si tu vois les questions dans le chat, parce que moi, je ne les vois pas du tout.
Il y en a un qui me dit pourquoi pas Arteta en coach. Je pense qu'il n'a aucun intérêt à partir d'Arsenal avec ce qu'il est en train de faire. Il va faire gagner le titre, il va jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Je ne le vois pas tout reconstruire. En plus, il a eu un club qui a été patient où il a pu construire un projet de jeu. À Paris, où tu n'as pas de projet vraiment collectif du jeu, où tu dois gérer avec tes stars, c'est l'antithèse de ce que fait Arteta à Arsenal. Donc je pense que pour lui, il n'y a aucun intérêt. Il y a Apollon qui nous demande Comté au PSG, vous prenez Barry, tu prends Comté si jamais Galtier devait être licencié?
Bah Comté, si on veut, vu qu'on va recruter Skriniar, oui, c'est le taulier de la défense à 3, etc.
Hakimi,
oui,
qu'il a eu.
Hakimi qu'il a eu, Skriniar, et puis je pense qu'il va se régaler avec ces joueurs-là. Et lui, pour le coup, il a vraiment de la poigne. Tu vois. Même si Galtier l'en a, hein, mais Galtier n'a pas les références que Comté a. Maintenant, la réalité, c'est comme l'a dit Ricoba, il faut un peu arrêter avec Comté, il faut arrêter un peu les farces. Comté en Ligue des Champions, malheureusement, il s'est toujours cassé les dents pour éviter d'être vulgaire. Et si vous pleurez parce que Galtier se fait sortir contre le Bayern, je ne veux même pas entendre les histoires de Comté, parce que l'argument de Comté n'a jamais eu de gros effectifs, c'est faux, vous ne pourrez pas le sortir.
Il a réussi à se qualifier avec Tottenham quand même cette saison. C'est un axe de progression chez Comté. Non, mais c'est vrai que Comté en Ligue des Champions, tu regardes son parcours, il a un quart avec la Juve. Et c'est
Il avait qui dans son groupe? Il avait l'OM, il avait...
Oui, il avait l'OM, Sporting et Francfort. C'était pas le plus dur, et ça se joue pas loin d'être éliminé par Marseille la dernière journée.
Ouais. Tu vois, les deux grosses pistes, c'était Francfort qui réalise une bonne saison.
Il y a Tonton. Tonton nous dit à Tourelle de dispo. Sinon, club, non, Tourelle, on va peut-être... Je sais qu'il y a beaucoup de nostalgiques qui repensent à Tourelle, mais bon, j'en ai en fait pas partie. Je sais pas toi, Barry, est-ce que tu es nostalgique?
Tu sais ce qui me fait rire avec Tourelle? C'est que moi, je suis pas nostalgique de Tourelle, non pas parce qu'il est mauvais. Hein. C'est que Tourelle, il avait très bien commencé. Sur la fin, on était tous unanimes pour dire il fallait qu'il parte. Tout le monde était unanime. Et là, depuis quelques temps, il y a une hype qui naît, que ce soit sur les réseaux et même de certains acteurs de la communauté parisienne, pour nous faire croire que Tourelle serait regretté par eux. Je me rappelle très bien que ces mêmes mecs ont pourri Tourelle après United, et que même lorsque Tourelle, la saison Final 8, a mis un 4-4 de losange en place qui était très intéressant, ils l'ont pourri sur ça et ils n'en voulaient plus Tourelle. Et là, maintenant, ça me fait un peu rire la nostalgie. Je prends l'exemple de Kimpembe. Kimpembe, il y en a beaucoup qui l'ont pourri sous la houlette de Tourelle. Et là, depuis quelques semaines, je vois des gens dire « Sous Tourelle, Kimpembe était exceptionnel !» Alors que c'est à ce moment-là qu'il a pris le plus de critiques. Marquinhos, lorsque Tourelle l'a mis en 6, moi, j'étais de ceux qui disaient que c'était une bonne idée de mettre Marquinhos en 6. Et je ne suis pas en train de mentir, hein, vous pouvez regarder les tweets, je les ai. Qui disaient que c'était une bonne idée. Tout le monde me disait, mais t'es malade, Marquinhos, il a des qualités, de réelles qualités pour être DC. Et là, aujourd'hui, tu vois des mecs qui disent, non, mais Tourelle avait tout compris, Marquinhos en DC, c'était une très, très bonne idée.
Non, mais...
Arrêtons un peu les farces.
Et puis, en fait, le temps efface souvent la vision. Le temps efface souvent la vision. Je vois beaucoup de gens qui disent « Oh, Blanc, ça jouait très bien, ils ont oublié ce qui se passait. » Ensuite, Emery a un peu réhabilité alors qu'il a été très critiqué, alors que sous Unai, on a quand même eu un niveau haut, parfois très haut. Ça, c'est mon avis, mais il a été très critiqué. Maintenant, c'est « Ah, c'était peut-être le meilleur jeu que QSI. » Tourelle, plus personne n'en voulait. Comme tu l'as dit, Marquinhos 6, mauvaise idée. Et puis, on réinvente, on embellit des choses. On nous dit que Tourelle faisait bien jouer, par exemple, l'équipe alors qu'il avait des chaînes. Faut pas oublier que Gaï, Kerrer et Choupo, c'est lui qui les veut à ce moment-là. Donc, les gars les citent parce qu'il avait cet effectif, mais c'est un effectif qu'il a voulu aussi. Donc, il faut relativiser. Là, je vois des mecs sur Twitter qui disent « Rendez-nous Leonardo », alors que Leonardo, il y a 99% des supporters qui le défonçaient. Tout le monde voulait Campos. Et maintenant, vive Leonardo. Donc, on a chaque année qui passe, réhabilite le passif. Et tu vas voir pareil sur Silva, tout le monde était contre pour son départ. Maintenant, tout le monde regrette Silva, pas moi, mais beaucoup de monde. Et si maintenant tout le monde veut le départ de Marquinhos, tu vas voir que s'il part et qu'il est performant dans un autre club, dans 3 ans, tout le monde dira pourquoi on a fait partir Marquinhos. C'est toujours la même chose.
Le Parisien est schizophrène, je le répète souvent, et je parle pas du journal, je parle du Parisien, parlons-nous. On est schizophrène, malheureusement. Voilà, c'est comme là, actuellement, là, on va tenter d'aller prendre Cherki, on prend un talent de Liga, alors qu'on le veuille ou non, hein, c'est peut-être pas le meilleur joueur, mais... Bah, on fait ce qu'on demande depuis des années, prendre les meilleurs talents du championnat. Alors ça pète ou ça casse, c'est ça les talents. C'est impossible de savoir que Colomani va devenir Colomani et voir ce qu'il a fait en finale de Coupe du Monde. C'est impossible à savoir juste avant. Malheureusement, c'est des paris ces mecs-là. Et lorsque ça passe, bah, vous n'êtes pas content que ça passe ailleurs. Et lorsqu'on les tente, bah, vous n'êtes pas content qu'on les tente comme les critiqués. Bref, ça c'est un débat à part. On va revenir aux questions-réponses. T'as d'autres questions ?
Ah, bah, là, il n'y a plus beaucoup de questions. Enfin, attends, je remonte. On voit mon doigt en gros plan, mais. Mon père Teta, j'en étais là. Nous en compte, il y en a plusieurs qui nous l'avaient demandé, on a répondu. Il y a une remarque, c'est pas une question, mais il y a Mister Nemo 174 qui dit pour moi le retour à la défense à 4, c'est pas un axe d'amélioration, c'est un aveu de faiblesse. Mon plan a échoué, on repart sur quelque chose de plus simple. T'en penses quoi ?
Oui et non. Oui, parce que moi je préfère prendre le prisme de l'optimisme. Je vois pas ça comme un aveu de faiblesse. Je vois ça plutôt comme une réalité. Le coach, il nous envoie un message, il nous dit écoutez, j'ai pas trouvé la bonne recette avec cette équipe-là. Je vais revenir à des choses que moi je connais, que je connais très bien. Je ne pense pas qu'il ne connaît pas le 3-5-2. Hein. C'est un coach, donc il connaît toutes les tactiques plus ou moins, et il sait comment les mettre en place. Je pense qu'il se dit, écoute, moi j'ai besoin de certitude dans cet effectif-là. Je vais revenir à un système de jeu que je connais très bien. Et puis on va mettre en place. Mais globalement, le vrai problème n'est pas le système. Que tu mettes une défense à 3, que tu mettes une défense à 4, que tu mettes 8 attaquants si tu veux. Le vrai souci, ça va être l'animation offensive. Et l'animation offensive, malheureusement, au Paris Saint-Germain, elle est très dépendante de deux individualités. Et lorsqu'ils ne sont pas là, on sent que, globalement, le jeu pêche. Et ça, c'est un problème.
Moi, pour répondre à cette remarque, je pense que l'aveu de faiblesse, il n'est pas d'en changer, mais d'avoir changé, mais il était dans le fait d'avoir voulu, alors qu'il n'y avait pas eu les joueurs pour, c'est-à-dire le fameux pivot et le fameux central en début de saison qu'ils avaient prévu, et d'avoir insisté avec ce système qui était où il y avait beaucoup de manques et qui n'était pas fait forcément pour ces joueurs, d'avoir insisté pendant 2-3 mois et d'avoir attendu des résultats un peu décevants, c'est-à-dire les deux nuls contre Benfica et un nul en championnat contre Reims, donc 3 nuls d'affilée, pour pouvoir changer. C'est plus là l'aveu de faiblesse, c'est d'avoir voulu persister dans un système qui était fait de base pour d'autres joueurs qui ne sont pas venus.
Ok.
Bah, sinon, il y a... Vas-y, tu veux répondre à ce que je viens de dire ?
Non, on n'est pas d'accord sur ça, mais comme j'ai répondu avant, je vais pas rebondir dessus. Mais
bah, c'est après, il n'y a plus trop de questions, parce que tu vois, la question qui remonte, c'est tonton qui me demande si j'ai fait cramer mon chili con carne, et ça date d'il y a 35 minutes. Donc, il n'a toujours pas cramé, je vais pouvoir aller le manger. Merci, tonton.
Bah, du coup, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche, les notifications, les nouveaux lives, le nouveau système de live, et n'oubliez pas, il s'est séparé.
Ciao, merci.